Alors bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble les clés pour devenir un growth hacker et surtout 6 astuces qui vont vous permettre en fait d'aller dépasser vos concurrents. Alors, au départ, en fait, j'ai voulu faire cette vidéo parce que il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui m'ont dit bah ouais, est-ce que le growth hacking c'est fini? Parce que maintenant c'est le growth marketing, parce que le growth hacking, les trucs astuces, ça marche plus, c'est dépassé, etc. etc. Alors, la première chose, c'est que oui, c'est clair qu'il faut se dire que le growth hacking, en fait, c'est pas du hacking, c'est pas des trucs astuces, et il faut assurer la croissance de son entreprise avec bah justement les techniques de growth hacking qui sont là pour faire du growth, c'est-à-dire de la croissance sur le long terme, en particulier avec le framework AR. Cependant, les hacks restent quand même importants parce que un hack, en fait, il va permettre de dépasser un peu ses concurrents, utiliser une petite technique, un petit truc qui permet de faire la différence. Alors, bien entendu, ces hacks ne marchent pas tout le temps. Par exemple, le cold mailing, ça marche moins bien. Les pods LinkedIn, ça marche beaucoup moins bien. Notification d'un navigateur, ça marche moins bien. Les direct messages par LinkedIn, ça marche beaucoup moins bien. Les invitations en masse sur LinkedIn, ça marche moins bien parce qu'on est limité à 100 invitations par semaine. Bref, c'est vraiment plus difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est mort. Bien au contraire, parce que pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des petites astuces qui permettent de sortir du lot et il faut avoir un peu des deux. C'est pour ça que dans ce dossier-là, bah, je suis revenu un petit peu sur les bases du growth hacking. Le growth hacking, pour moi, c'est deux choses, c'est growth et hacking. Alors, c'est Ryan Holiday qui en a parlé au départ, mais en fait, pour moi, c'est un concept intéressant parce que c'est des startups, en fait, qui doivent sortir du lot, devenir rentables et sortir un produit et commencer à faire du cash, alors que souvent, il y a déjà des concurrents vachement importants. Et donc, en fait, bah, le growth hacking, c'est ça, c'est une méthode et des astuces, donc pas que des astuces, pour croître plus rapidement, sans gros moyens, avec une culture orientée ROI, résultat, quitte à prendre des risques. Et donc, il y a deux mots, il y a growth, c'est la méthode pour assurer une croissance de son entreprise sur le long terme. Et il y a hacking, qui est la version hacking. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, growth et hacking, mais par contre, je vais essayer de vous parler plutôt de la mentalité du growth hacker. Le growth hacker, en fait, c'est tout simplement essayer de créer un effet waouh et d'aller optimiser, par exemple, cette partie expérience client, mais c'est également exploiter et optimiser à 100% les 100% des étapes du cycle de vente. Et c'est pas que l'achat, c'est pas que la conversion, c'est le revenu. En fait, un bon growth hacker va chercher certes à améliorer l'acquisition, l'activation, mais également la rétention, la recommandation et l'augmentation du chiffre d'affaires, soit avec du marketing produit, hein, c'est-à-dire sortir des gammes de produits, soit tout simplement avec des options, par exemple, essayer de faire des versions premium, essayer de favoriser plutôt une version ou un produit qu'un autre, essayer de faire de l'upsell, essayer de faire du cross-sell, et essayer d'optimiser son tunnel de vente. Donc le framework AR est vraiment essentiel là-dessus. Pour moi, le framework AR, c'est à la base, ça permet vraiment d'aller analyser une activité ou une entreprise, allez, en 2-3 heures, vous savez où agir en priorité. En fait, le but, c'est de se dire, grâce à la mise en place de ces techniques de growth hacking et l'analyse de l'activité de manière rationnelle, et bien tout simplement, on va, au bout d'un moment, finalement, réussir à avoir des résultats exceptionnels parce que si toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et bien on commence à optimiser des choses, on travaille de plus en plus ces choses, pas avec juste un petit point du parcours client, mais l'ensemble du parcours client et savoir où agir en priorité, c'est là qu'on va avoir véritablement le plus d'impact. Et c'est ce que voit en fait Darren Hardy dans son livre L'effet cumulé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, vous allez cartonner parce que tout simplement vous allez avoir plus de résultats, plus de résultats, plus de résultats, plus de conversions, plus de conversions, plus de conversions, plus de revenus, plus de revenus, plus de fidélisation et au final vous allez cartonner. En fait, c'est simple, c'est l'effet cumulé. Alors par contre, il y a des limites en fait auxquelles en fait pensent certaines personnes quand elles parlent du growth hacking. Ils se disent ouais, le growth hacking c'est le cycle des ventes et en partie la partie acquisition et conversion. Or en fait, ben, le growth hacking peut s'appliquer partout. C'est-à-dire qu'au recrutement, vous pouvez très bien utiliser des techniques de growth hacking pour entrer en contact direct avec des candidats difficiles à trouver comme des développeurs, mettre en place un processus d'onboarding pour recruter de nouveaux clients, utiliser une grille de recrutement pour sélectionner les meilleurs candidats. Donc en fait, ça c'est l'application des techniques de growth marketing, growth hacking, recrutement. En informatique, eh ben c'est tout simplement se dire bah, je vais automatiser des tâches au quotidien, que ce soit au niveau des ventes ou du marketing, mais également, je sais pas, au niveau de la comptabilité ou autre chose, avec des outils comme Zapier, N8N ou des choses comme ça. C'est également utiliser des outils, par exemple, comme les chatbots, les callbots, pour automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Au niveau des achats, bah c'est en growth hacking, ça sera recourir par exemple à des sous-traitants offshore, remettre en cause des logiciels leaders du marché, passer sur de l'open source, essayer de faire du développement interne comme le fait certaines certaines entreprises. Par exemple, moi, je garde en mémoire ce que disait donc le fondateur de Tesla. Et il nous disait très bien, ce petit ce petit gars, que des fois, en fait, il faut essayer de se dire, est-ce que je peux pas le faire en interne? Parce que parfois, en fait, on peut se dire, non, je vais prendre une solution du marché qui t'a payé un peu plus cher. Et non, quand on se dit, non, je vais faire moi-même, finalement, on apprend des techniques et finalement, on fait quelque chose qui est propriétaire. C'est ce que fait, par exemple, Free. Généralement, en fait, eux, ils développent leur propre outil en interne. Ils achètent très peu de solutions à l'externe et c'est en fait cette partie R&D qui fait leur force. Par exemple, la Freebox, ça vient de leur R&D et tout ça. Et par exemple, pour la Visio, je crois que c'est leur propre outil en interne qu'ils ont utilisé en visioconférence, alors qu'il y a des outils du marché qui existent. Alors, attention, faut pas non plus tout redévelopper, refaire la roue, mais parfois ça peut être intéressant quand c'est des montants assez importants. Au niveau des ventes, pareil, on peut utiliser une technique de growth marketing, growth hacking, par exemple pour analyser les performances des commerciaux au niveau des appels sortants, par exemple avec des outils comme gong.io, qui permet en fait de voir en fait les mots-clés, les expressions, avoir une bibliothèque d'appels, etc., etc. C'est la mettre en place des processus commerciaux très carrés dans le CRM pour avoir cet aspect processus. Au niveau du produit, c'est travailler en méthode agile, en sprint, création de MVP, hein, Minimum Viable Product, faire de la co-création avec les clients. Bref, vous voyez que le growth hacking, c'est pas juste la partie marketing, ça peut être du recrutement, de l'informatique, des achats, des ventes et du produit. Donc voilà, c'est ça qu'il faut se dire. L'état d'esprit du growth hacker peut être diffusé à l'ensemble de l'entreprise à condition que, un, il y a la confiance des dirigeants. S'il n'y a pas les dirigeants qui vous appuient, qui sont là en fait pour vous soutenir, eh ben en fait vous serez cantonné au marketing. Et aussi, il faut qu'il y ait des équipes qui soient prêtes à changer. Et généralement, ça marche très bien quand vous créez une boîte, quand vous êtes une start-up, mais ça ne marche pas du tout quand vous êtes dans une grosse boîte, parce que forcément chacun a ses baronnies, ses chapelles. Si un mec du marketing dit, tiens, j'aimerais bien vous aider à améliorer les ventes et on va y faire des écoutes des conversations des clients, si le directeur commercial vous venez de voir en disant ça, il va dire, mais hey, tu te fous de ma gueule, c'est mon boulot ça, et tu te barres en courant, quoi. Pareil, si vous êtes au marketing digital et que vous allez voir le marketing produit en disant, hey, j'aimerais bien sortir une version premium, ou j'aimerais bien qu'on sorte une version avec les clients, je pensais à tel truc, ils vont dire, ah non, t'es gentil, ouais, ton idée est intéressante, mais c'est notre boulot, ça. Donc voilà, donc ça marche vraiment bien quand il y a vraiment cet esprit gros hacker. Alors, comment devenir un gros hacker? Alors, la première chose, moi, je voudrais déjà dire une première vérité, c'est que être gros hacker, ça ne veut pas être développeur. Moi, je vous le dis clairement, on n'est pas gros hacker si on est geek. Programmer, ça peut être intéressant, mais moi, je préfère largement utiliser des logiciels réalisés par des pros de l'informatique qui savent le faire bien mieux que moi. Et donc, moi, j'utilise plutôt des outils. Et pour moi, il y a quatre familles. Il y a donc, bien sûr, ces développements spécifiques, les scripts, les programmations, etc., que l'on peut retrouver, par exemple, open source sur GitHub ou via des prestats externes. Moi, j'ai déjà fait ça, des outils de scrapping qui scrapaient des données. C'est plus simple de passer par des pros. Vaut mieux payer 500 balles avec un gars qui va faire un truc clean et ça sera bien fait que vous vous y passiez 3 jours, quoi. Après, il y a les logiciels boîte à outils qui servent en fait pour de nombreux usages, que ce soit par exemple des outils de scrapping, web scrapper, Octopart, etc., ou des outils d'automatisation. J'en ai parlé tout à l'heure, Zapier, IFTT, N8, N, etc., etc. Moi, par exemple, j'utilise Zapier et Phantom Buster pour en fait envoyer des messages de bienvenue à mes nouveaux followers sur Twitter. C'est en fait, il y a Zapier qui va prendre la liste de tous mes nouveaux followers sur Twitter, il les met dans un Google Sheets. Le Google Sheets ensuite, il est lu par Phantom Buster qui envoie un message à toutes ces personnes-là en disant, hey, bonjour et bienvenue de me suivre. Voilà. Donc en fait, c'est un petit outil, c'est deux outils en même temps qui permettent d'automatiser des tâches. Après, il y a des logiciels qui sont spécialisés dans un seul domaine d'activité. Par exemple, moi, j'utilise LinkedIn Helper sur LinkedIn, qui permet vraiment de faire des trucs super sympas parce qu'il permet d'aller automatiser des tâches, comme par exemple envoyer des invitations automatiques, envoyer des direct messages pour inviter un webinaire et tout ça. La dernière catégorie d'outils que je recommande, c'est les outils de sous-traitance en offshore. En fait, c'est simplement faire appel à une assistante qui pourra travailler à moindre coût sur des tâches à faible valeur ajoutée. Alors, ça fait 5 ans que je travaille avec mon assistante qui s'appelle Sabrina, qui est à Madagascar, et c'est clairement un très bon investissement que j'ai fait. Elle réalise vraiment des tâches simples. Par exemple, elle sait répondre au chat grâce à une FAQ, elle sait faire des messages personnalisés sur LinkedIn. En revanche, il faut vraiment être très clair. Moi, je n'ai jamais, 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 jamais trouvé quelqu'un qui soit suffisamment bon pour faire de l'écriture de texte au niveau que je souhaite. Et ça, en fait, bah voilà, c'est aussi la valeur ajoutée. Connaître les produits, connaître le marché, connaître les clients, bah c'est votre expertise à vous et c'est à vous en fait de le créer. Alors, pour se former, bah en fait, au growth hacking, c'est simple, hein, il y a des formations spécifiques, vous en trouverez des dizaines sur Internet. Bah, il y a mon bouquin, le growth hacking que vous connaissez, avec ma formation vidéo growth hacking que vous pouvez aussi utiliser sur mon site Internet. Mais en fait, ce qui compte en fait généralement pour être growth hacker, eh ben c'est maîtriser grosso modo deux trois compétences clés. Généralement, il faut maîtriser deux trois compétences qui vont compter dans un secteur d'activité. Par exemple, dans le marketing B2B, ben, clairement, il faut maîtriser le SEO, il faut maîtriser le social selling et ben, pas mal de copywriting. Je pense que c'est des trucs essentiels. Dans des activités plus B2C, ben, il faut maîtriser absolument la publicité payante, Google Ads et Facebook Ads, etc. Un petit peu le SEO, mais le social selling, c'est pas du tout important. Les copywriting, c'est pas non plus super important. Donc, en fait, un growth hacker va avoir en fait des compétences, et j'en parlerai juste après avec ce format en T. Alors, moi, j'explique véritablement que il faut surtout apprendre comment dire, une philosophie. C'est-à-dire qu'on va exploiter soit des carrefours d'audience, soit des opportunités business. Et généralement, bah, vous avez 4 étapes à suivre. Un, on va identifier cette opportunité qui peut être un carrefour d'audience, une optimisation du cycle de vente ou des choses comme ça. Deux, eh ben, on essaye de voir comment on va l'exploiter. On trouve des idées, on trouve des solutions. Et d'abord, c'est manuel pour voir un peu comment ça passe, est-ce que ça marche, les écueils, etc. Et ensuite, on essaye d'automatiser. Ensuite, on fait un test, on lance. On analyse, on mesure, et après, en fait, si ça marche bien, ben, on industrialise ou on améliore la performance. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Et le système, en fait, c'est ce système AR, hein, c'est que donc on va identifier ce fameux point à optimiser, le maillon faible, hein, ce fameux maillon faible dans le cycle des ventes. On va se dire, tiens, ok, c'est là qu'il faut agir en priorité. Ensuite, on fait foisonner les idées. Il y a 2 sessions de brainstorming. Ensuite, on choisit les mêmes idées avec une note de 1 à 10. On se dit, voilà, tiens, ça, c'est super important. Et donc, on note chacune des idées et on essaie de trouver la plus efficace. Ensuite, on sélectionne 2 à 3 idées. Une quick win, c'est-à-dire quelque chose qui est super simple à mettre en place et qui va donner des résultats. Et une ou deux idées un peu plus complexes qui, elles, nécessiteront véritablement du temps, nécessiteront d'aller vérifier que ça marche, etc. Et ensuite, on fait peut-être un mini business plan. Alors, c'est un petit peu intéressant de savoir ça parce que ça permet de savoir ce qu'on va faire. Imaginons que vous dites, tiens, je vais augmenter mon taux d'ouverture de mes emails de 25 à 40%. Et ben pour passer de 25 à 40%, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes méthodes que de passer de 25 à 35 ou de 25 à 30. Et donc, si vous dites, tiens, je vais faire 45, et ben à ce moment-là, on va faire plus d'efforts, comme par exemple changer de solution d'emailing, changer d'expéditeur, changer d'adresse IP. Tandis que si vous voulez dire, tiens, je passe de 25 à 30, et ben c'est peut-être juste travailler le copywriting, travailler par exemple la forme, mettre des messages texte au lieu des messages des fois full HTML. Bref, c'est comme ça que ça marche. Travailler aussi le retour sur investissement, ça aussi c'est important parce que pour justifier en fait vos actions, bah, parfois en fait il faut dire ok, je vais mettre ça me coûte tant et ça me rapporte tant. Et c'est comme ça en fait que vous allez convaincre les managers. Et après le ROI réel, c'est simple, hein, c'est se dire voilà, j'ai mis l'action au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, qu'est-ce que ça donne? Et après on itère, on continue avec cette identification d'un problème, le maillon faible dans le cycle des ventes, lister les solutions, prioriser les idées, tester et ensuite voir comment ça marche. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, quelles sont les compétences pour devenir un growth hacker? En fait, ce qui se passe, c'est que comme pour le SIMO, il y a en fait pour moi 3 types de profils de growth hacker. Il y a le profil white hat, le chapeau blanc. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont respecter scrupuleusement en fait les règles. C'est des gens qui sont souvent dans des grandes entreprises ou dans des entreprises où on peut pas faire ce qu'on veut, où il y a des grandes boîtes, chacun a un périmètre limité. Et là, en fait, on sait qu'on peut utiliser des techniques de growth hacking un peu limites. Donc là, en fait, on va utiliser plutôt, par exemple, le framework AR, la créativité et tout ça. Mais on va pas utiliser des logiciels un peu limites. Par contre, il y a ce que j'appelle moi les créates, les chapeaux gris. C'est ce que je fais moi, c'est des gens qui flirtent avec les limites, et en particulier les conditions générales d'utilisation de sites internet. Et par exemple, sur LinkedIn, moi j'utilise LinkedIn Helper qui est totalement interdit. Et pourtant, ça fait gagner énormément de temps. Et après, il y a les chapeaux noirs, les gens qui vont vraiment utiliser des techniques illégales, comme scraper des données, envoyer des emails professionnels, enfin envoyer des emails à des personnes dont on a deviné l'email professionnel sans les connaître. Ça, je trouve ça illégal parce que c'est interdit. Et donc moi, je le fais pas et je le recommande surtout pas de le faire. Envoyer des emails en B2C alors que on n'a pas d'autorisation, ça aussi, c'est totalement interdit. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, faut se dire comment je vais adapter ces méthodes et ces idées de course hacking selon mes compétences et selon l'entreprise. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle le profil D, le T-shape des gros hackers. C'est-à-dire qu'un gros hacker n'est pas identique partout. C'est pas, en fait, comme un comptable ou un contrôleur de gestion qui a fait, une étude, qui a un diplôme d'expertise comptable ou qui a fait, une école de commerce. Ensuite, après, il s'est spécialisé dans un master en contrôle de gestion. Et ben en fait, c'est pas la même chose dans le marketing et en tant que gros hacker. C'est-à-dire que vous pouvez avoir différents types de gros hackers qui correspondra aux besoins exacts de votre entreprise. Par exemple, un gros hacker n'est généralement pas un spécialiste, un expert. Il connaît pas, par exemple, tiens, je suis un pro du PPC, c'est-à-dire que je connais Facebook Ads ou Google Ads à fond, et par contre, après, le SEO, le content, le copywriting, tout ça, je connais pas trop. En fait, ça, c'est plutôt un expert. Et un gros hacker n'est pas vraiment un expert sur un domaine. C'est pas non plus un marketeur généraliste. C'est-à-dire qu'un marketeur généraliste, il connaît un peu tout, mais il fait surtout appel à des agences où, il n'est pas expert dans un domaine. Vraiment, il connaît un peu de tout et puis, il tâtonne. Un gros hacker, généralement, a un profil en T. C'est-à-dire, en fait, qu'il maîtrise parfaitement 2 à 3 techniques qui sont vraiment ses piliers. Un petit peu comme le spécialiste d'un domaine, mais peut-être pas aussi pointu, mais il connaît bien ces 3 techniques qui sont vraiment la base de son business. Et en plus, il connaît toutes les autres techniques correctement. Et donc, en fait, selon vos compétences, vos profils, vous avez des compétences qui vont être plus ou moins différentes. Par exemple, moi, mon profil de gros hacker en T, c'est tout simplement 2 bases très fortes qui sont les SEO et le contenu. Et je dirais peut-être le social selling, si j'en ajoutais une 3e. Et après, je connais très bien le copywriting, l'analytics, je connais un petit peu le PPC, les mailings, je connais bien, l'UX, la fidélisation, je connais bien, la prise de parole, je connais bien, le sales enablement, je connais bien, le site internet, graphisme aussi un peu. Mais je suis pas un pro, je suis pas un expert. Je suis un expert en SEO, en contenu, en social selling. Donc ça, c'est 3 anti-shapes. Et au-dessus, il y a toutes les autres techniques. Après, il y a des trucs non maîtrisés que je maîtrise pas. Par exemple, le scrapping et le coding. Ça, c'est que je maîtrise pas. Il y a des choses que je maîtrise, mais qui sont pas importantes pour mon travail. Comme par exemple, le CRM, les bots, l'affiliation, le product marketing. Ça, en fait, c'est des choses qui sont pas dans le T-shape parce que une entreprise, elle dira, maintenant, moi, en fait, mon gros hacker, je veux surtout qu'il ait telle compétence, cette compétence. Et là, celui que j'ai en face de moi, c'est pas le T-shape que j'ai. Par exemple, en B2B, si quelqu'un se présente et dit, moi, je suis mes 2 piliers, c'est le Facebook Ads et Google Ads, et ensuite, c'est par exemple l'affiliation et les marketplaces. Là, on va dire, mais non, t'as pas le profil, quoi, Coco. Et en fait, c'est parce que son profil en T-shape est sur 2 piliers qui sont inutiles. En plus de ça, on peut aussi noter qu'un gros hacker aura tout intérêt à avoir des soft skills. Les soft skills, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu les hard skills, c'est les compétences techniques. Les soft skills, c'est la manière d'être. Et par exemple, la manière d'être, moi, je mets dedans la connaissance du secteur, la rigueur, la créativité, l'enthousiasme, l'envie de faire des choses, l'assertivité, le degré de priorisation, etc. Et ça, en fait, quand on a cette petite grille-là, ça devient facile pour quelqu'un de recruter un gros hacker parce qu'il se dit, la personne que je recrute, en fait, elle doit avoir 2 gros piliers et ensuite elle doit avoir d'autres choses qu'elle doit connaître. Elle doit avoir des trucs qui sont pas indispensables, des trucs qui sont pas importants et en soft skill, il faut savoir ça et ça. Voilà. Et donc ça permet de savoir, comment on se place et surtout un recruteur de savoir quel est le gros hacker. Et ça explique pourquoi tous les gros hackers sont pas les mêmes et ont pas les mêmes compétences. Alors, je vous ai mis après quelques petites astuces de gros hackers qui vont vraiment dans cette philosophie. Alors, comme je vous disais, le framework AR, c'est super important, mais il y a des astuces qui permettent de doper un peu sa croissance. La première, en fait, c'est tout simplement Snipply, qui en fait, Snipply, ça s'écrit Snipply. C'est un petit logiciel, un petit utilitaire en fait, qui s'installe et qui permet en fait, lorsque vous partagez un lien sur Internet, comme par exemple, allez, vous êtes fan d'un blogueur, vous avez un article qui vous plaît vraiment, vous dites, tiens, je vais le partager sur LinkedIn, je vais le partager sur Twitter, je vais le partager sur Instagram. Et généralement, quand ce que vous faites, vous partagez le lien et puis voilà, et vous mentionnez l'influenceur. Le truc, c'est que bah, vous faites un partage, c'est sympa, mais vous ne faites pas en fait de promo. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser Snipply parce qu'en fait, ça va rajouter une petite pub tout en pied de page en fait du lien que vous allez partager, de la page que vous allez partager. Et donc, vous allez voir votre petite pub. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je partage une URL, par exemple, d'un de mes confrères, eh bien, tout en bas, il y a mon bouquin qui dit Découvrez 100 conseils pour attirer plus de clients, un email tous les 2 jours, cliquez ici. Et là, bim, ça les emmène sur une page où ils peuvent laisser leurs coordonnées et s'abonner. Ce qui me permet en fait de rentabiliser mon temps. Alors la petite astuce, vous allez me dire, moi je partage du contenu tant longtemps, mais c'est pas tous les jours. Eh bien ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez une liste d'influenceurs. Par exemple, vous faites un top 100 des influenceurs dans le domaine de la banque, de la mode ou je ne sais quoi. Vous prenez un lien de chacun de ces influenceurs, un lien de site web, un article de blog, ou ça peut être même un produit, et tac, vous mettez votre pub tout à la fin, comme ça, qui sera affichée, vous mentionnez les influenceurs, et forcément, ils vont dire, ah, c'est super sympa, il m'a mentionné, sur Twitter, je vais le retweeter, sur Instagram, bah, je vais peut-être le partager, ou je vais en mettre dans ma story, sur LinkedIn, en fait, bah, je vais partager sur mon profil, et en fait, vous, comme ça, vous allez avoir une démultiplication de votre visibilité, en mentionnant, bien entendu, des influenceurs qui vont partager. Donc non seulement vous allez avoir de la visibilité auprès de sa communauté, mais en plus vous allez pouvoir générer des leads. Deuxième astuce, en fait, un gros hacker doit vraiment essayer de saisir et d'utiliser intelligemment toutes les opportunités qui passent vraiment pour lui pour dire, hey, ce que je fais, est-ce que je peux pas le faire mieux? Est-ce que je peux pas être plus efficace? Est-ce que je peux pas me servir à quelque chose? Par exemple, lorsqu'un client vous fait un retour positif sur email, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, bah, utilisez ce témoignage-là. Vous pouvez lui demander en disant, tiens, est-ce que je peux utiliser votre témoignage? Autrement, vous masquez le prénom, vous masquez le nom, vous masquez la photo et tac, vous partagez, vous utilisez dans votre landing page, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Autre chose, bah en fait, c'est essayer de travailler en fait sur l'effet waouh et d'avoir un produit qui va être génial. Mais vous allez en plus travailler cet aspect bouche à oreille avec un programme de parrainage. C'est-à-dire que vous allez proposer aux gens, si ça les intéresse, tout simplement de parler de votre produit et en échange, ils vont gagner un cadeau, un bonus ou en fait par exemple, un petit montant d'argent. En fait, ça se fait beaucoup parce qu'en fait, ça permet d'avoir des gens qui vont partager et donner leur avis. Et quand vous avez comme ça quelqu'un qui dit, ouais, j'adore cette boîte, utilisez-le, bah, c'est vachement plus crédible qu'une publicité. Et pour cela, en fait, il suffit d'utiliser des plateformes d'affiliation ou de parrainage, comme par exemple firstpromoter.com, impact.com, partnerstack.com. Et en fait, ça vous aide à construire très facilement un programme d'affiliation. Et ainsi, vous allez générer avoir un générateur automatique de prospects. Alors après, il y a même la possibilité de faire des trucs un peu plus chiadés, hein. Par exemple, Dropbox, qu'est-ce qu'ils ont fait au départ? Bah, si vous aviez je crois que c'était 1 giga de base ou quelque chose comme ça, si vous vouliez avoir un peu plus d'espace, bah, c'était simple. Il suffit de proposer à un ami de s'inscrire à Dropbox et y gagner 500 mégas d'espace disque à chaque fil à eu. Bah, vous voyez, c'est simple, il y avait juste à partager avec un lien unique. Avec ce lien unique, en fait, le Dropbox savait que ça venait de telle personne. Et là, boum, automatiquement, et ben en fait, lui, il était, enfin Dropbox gagnait un nouveau utilisateur et toi, tu gagnais 500 mégas d'espace disque. Donc, ce système de parrainage marche extrêmement bien à partir du moment où vous avez un bon produit et des clients qui sont contents de ce produit-là. Quatrième chose, quatrième idée, astuce de ninja, simplement faites des tests systématiques A/B testing pour tester les variantes plus efficaces. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment un réflexe qui doit être chez tous les gros hackers, c'est-à-dire que il y a des petites astuces, des petits trucs simples qui doivent être mis en place pour améliorer la conversion. Et ce truc simple, c'est A/B tester, c'est-à-dire que j'ai deux versions d'un email, et ben en fait, je vais tester deux objets, je vais utiliser deux expéditeurs. Et par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait comme ça un emailing, j'ai fait une première variante qui était offrir une expérience client différenciante avec un emoji j'aime, 4 cas pratiques, qui a fait 1,63% de clics. Et ensuite, j'ai fait 4 cas pratiques d'expérience client différenciante, avec l'emoji cœur, en fait, voilà. Et en fait, cet objet-là, hein, entre offrir une expérience client différenciante, 4 cas pratiques et 4 cas pratiques d'expérience client différenciante, et ben en fait, ce deuxième objet a fait 2,1% de clics. C'est-à-dire qu'on a 22% de clics en plus, tout simplement en changeant l'objet. Donc il faut tester comme ça l'objet régulièrement et l'expéditeur. Tester deux landing pages aussi ou tester deux formulaires. Par exemple, une fois, j'avais mis un formulaire avec une nana qui tenait un bouquin et je me disais, waouh, ça va vachement bien parce que ça va intriguer les gens. Et ben en fait, non. C'était le bouquin lui-même qui était plus visible. Il faisait 38% de conversion en plus, tout simplement parce que le bouquin était plus visible, il était plus facile de lire le titre, alors qu'en fait, l'autre était pas très visible. Après, une autre astuce qui est également extrêmement simple, c'est d'utiliser hotjar.com, enfin hotjar.com, ça permet en fait de filmer ce que font les internautes sur votre site. Par exemple, est-ce qu'ils lisent votre texte, est-ce qu'ils scrollent, est-ce qu'ils cliquent sur des boutons, est-ce qu'ils s'arrêtent. Et en fait, ça vous permet de voir en fait ce que font les gens et ainsi améliorer vos landing pages. Cinquième astuce de Ninja, c'est quand vous faites de la pub Google Ads, faites des enchères en fait sur les mots-clés de vos concurrents, c'est-à-dire la marque, mais dans des produits. Tout simplement parce que comme ça, quand les gens ils vont taper le nom de votre concurrent, ils vont voir votre pub qui va apparaître dans Google. Et là, vous avez une chance de les choper. Alors, attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom de marque dans vos annonces si cette marque est déposée. Donc voilà, utilisez-les en achat, mais n'utilisez pas forcément le nom de la marque dans le texte de l'annonce. Le sixième point, c'est tout simplement le fait que vous n'avez pas le monopole des bonnes idées. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais en fait une bibliothèque des meilleurs emails que je reçois. Dès que j'ai à chaque fois, en fait, la tentation d'ouvrir un email, que je trouve un email qui est un peu intrigant ou un email qui est bien fait, je le mets dans une petite bibliothèque qui s'appelle email 111 email, parce qu'en fait 111 pour que ça soit dans les premiers formulaires. Et en fait, de temps en temps, quand j'envoie un email, je dis tiens, je vais écrire ça comme objet d'email. Et puis finalement, je me dis, tiens, allez, je vais vérifier si je peux pas faire mieux. Et parfois, je trouve l'inspiration et je mélange comme ça un titre dans ma bibliothèque et mon titre à moi. Et ça fait des trucs qui sont assez malades. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai volé comme ça un titre en fait de Antoine BM, qui est un très bon copywriter et qui avait mis comme titre, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un truc comme Je m'amuse comme un petit fou. Voilà, c'est ça. Il avait mis Je m'amuse comme un petit fou comme titre de son email. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai repris ça. Je m'amuse comme un petit fou avec ces 6 hacks de folie pour générer des ventes, ou ces 6 hacks de ninja, ou ces 6 astuces de gros hacker ninja, ou je sais plus quoi. Et donc, avec ça, en fait, j'ai cumulé son titre et le mien. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous dire que être gros hacker, c'est pas très compliqué. Il suffit de connaître les bases de la méthode, appliquer bien sûr la méthode de gros hacking, le framework AR, mais aussi des petits hacks. Si vous voulez en savoir plus, ce que je vous propose tout simplement, c'est d'aller consulter ma formation vidéo gros hacking, tout simplement, et mon bouquin. Pour 60 €, vous pouvez acheter le bouquin et la formation vidéo qui doit faire, il doit faire une quinzaine d'heures, je pense, une dizaine ou une quinzaine d'heures, et le livre papier de 180 pages. Donc pour 60 €, ça va vous faire la lecture de l'été et vous allez pouvoir vous lancer dans le gros hacking. Allez, bon courage à vous et à très bientôt.